Les colloques du Collège de France.
Bien, dans cette dernière séance, j'ose dire qu'on va passer aux travaux pratiques. Après avoir vu l'Orient, l'Extrême-Orient, nous passons maintenant à l'Europe orientale et à la question de l'autoritarisme. Est-ce que l'autoritarisme est un despotisme ou non ? Et là, nous avons le grand plaisir d'avoir Madame Sabine Dulin qui nous appelle du terrain pour nous parler des lectures contrastées de l'impérialisme russe et soviétique. Donc, je vous cède tout de suite la parole.
Merci. Ma communication sur le despotisme oriental, je voudrais d'abord commencer par dire donc que depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, de l'agression russe en Ukraine, je me suis mis à réfléchir avec d'autres collègues sur la question du despotisme oriental dans le cadre de la Russie actuelle. Et donc, je remercie chaleureusement Anne Cheng et Henri Laurence de m'avoir conviée à cette conférence qui ouvre donc une perspective à la fois comparée et diachronique sur cette notion. Alors, ma réflexion, elle a débuté d'abord dans le cadre d'un séminaire que j'organise à Sciences Po avec une collègue de Paris Cité, Sophie Queret. Donc, nous avions consacré une séance à cette question du despotisme oriental dans le cas russe et chinois. Et puis, nous l'avons poursuivi lors d'une semaine de l'histoire organisée par le Centre d'histoire de Sciences Po en décembre 2022, intitulée « Le retour de l'histoire ». Et nous avions fait un débat, notamment organisé avec Pierre Fuller, historien de la Chine, qui justement, là aussi, le but était de réfléchir à cette notion et à sa pertinence dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Et cette réflexion collective, nous la poursuivons dans le cadre d'un numéro en préparation dans la revue Monde, Histoire, Espace, Relations, un numéro donc qui s'intitulerait « Le despotisme de l'autre » et qui est co-organisé par Pierre Fuller et Marion Labbé, et moi-même, je suis ce numéro pour la rédaction en chef de la revue. Je dois dire qu'effectivement, je parle du terrain, puisque je ne suis pas en France actuellement. Je suis à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine pour un congrès fondateur d'une nouvelle association qui s'appelle Ruta, et dont l'objectif est de décoloniser le champ des études russes, de décentrer les méthodes et les sources, et de donner la parole, y compris en termes épistémologiques, aux non-russes de l'Empire. Alors, cette étude de l'Empire et de ses marges, l'étude de ses frontières, c'est un sujet que j'ai travaillé depuis une quinzaine d'années, notamment à travers la parution d'un livre, une monographie qui s'appelle « La frontière épaisse » sur cette question de l'expansion de l'Empire à l'époque soviétique. J'ai poursuivi cette réflexion dans un petit essai « L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire » qui vise à réfléchir à cette continuité de part et d'autre de la rupture de l'Union de la Révolution russe sur l'impérialisme en Russie et Union soviétique. Alors, pour commencer, ce que je voudrais, j'ai une question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est en quoi la grille de lecture despotisme oriental peut éclairer ou au contraire dissimuler l'impérialisme des tsars, des communistes et de Poutine. Bien évidemment, quand on parle du despotisme dans le cas russe, il y a deux notions. Il y a la notion de despotisme et il y a toujours aussi la notion de totalitarisme, qui est une clé de l'explication du siècle soviétique. Et dans les deux formulations, despotisme et totalitarisme, il y a une tension. La tension entre, d'un côté, un pouvoir qui serait un pouvoir conservateur, qui entend simplement auto-perpétuer le despotisme, qui s'appuie sur une bureaucratie aux ordres, un État écrasant et policier. Mais de l'autre, il y a toujours aussi l'idée d'une modernisation par le haut, menée sous un État ultra-autoritaire, donc un projet de transformation de la société, une société que l'on juge immobile, archaïque, et qu'il s'agit donc de modifier par les moyens d'un État et d'un pouvoir total. C'est donc bien sûr l'idée du despotisme éclairé ou du totalitarisme transformateur. Alors, pour relier cette question du despotisme et de l'impérialisme, rien ne vaut le regard de ceux qui ont vécu la conquête russe, et je partirai donc de deux regards ukrainiens. Le premier actuel, donc un cinéaste ukrainien de 39 ans, Alexis Radinsky, cofondateur du Centre de recherche en culture visuelle à Kiev, qui écrit un pamphlet le 9 mars 2022. Et dans ce pamphlet, il évoque, il refuse hein, l'idée de l'unité historique de deux nations, celle de l'Ukraine et celle de la Russie, et il souligne des siècles de domination impériale par la Russie. Il souligne aussi une relation entre métropole et colonie. Cette vision des choses, on la retrouve dans la période de la guerre froide et notamment autour de 1968, notamment dans le cadre de lettres envoyées aux autorités soviétiques par la jeunesse non pas dissidente mais oppositionnelle de l'Ukraine de l'Est à Dnipropetrovsk. Et dans cette lettre, notamment, on voit des formes d'expression comme « piraterie coloniale »,« despotisme asiatique »,« morgue grand russe ». Alors ce regard ukrainien, il est porté bien plus largement par un regard extérieur et intérieur sur l'impérialisme et le despotisme, et on pourrait revisiter ce lien entre impérialisme et despotisme du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en prenant appui notamment sur un certain nombre de discours comme celui de Marx, donc Karl Marx, qui défend la Pologne contre le tsar despote au milieu du 19e siècle, et pour la plupart des progressistes d'Europe, Nicolas Ier, le tsar du moment de la guerre de Crimée, est un véritable gendarme en Europe centrale et orientale. Et c'est véritablement le fer de lance de la répression du printemps des peuples en lien avec la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Cette thématique, elle est revue, reconfigurée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle sous l'angle de la prison des peuples. Je renvoie notamment à cette carte fameuse d'Élisée Reclus, géographe et anarchiste, qui fait cette carte en 1905. Et qui évoque donc tous les peuples de toutes les Russies et des autres pays qui sont soumis au tsar et qui doivent donc obtenir leur libération. La thématique de la prison, on la retrouve dans le cadre de la guerre froide et du rideau de fer, avec l'expression « nation captive » ou « colonialisme rouge », qui est porté par les milieux dissidents et les milieux anticommunistes et atlantistes durant la guerre froide. Pendant toute cette période, il y a véritablement une opposition entre ce qui est à l'est de la Russie et ce qui est à l'ouest. D'une certaine manière, la Russie fait du colonialisme classique en direction de l'Asie centrale et du Caucase, c'est-à-dire l'idée d'une mission civilisatrice qui irait moderniser des périphéries, des sociétés immobiles, orientales, attardées, celles de l'Asie centrale et du Caucase. Mais on a aussi l'autre forme de colonialisme russe en direction de l'Ouest, en direction de l'Europe, en direction de la Pologne, de l'Ukraine, des Pays-Baltes. Il s'agit d'un impérialisme presque inversé, puisque sur le fond, ce sont des périphéries plus riches, plus cultivées, plus européennes que le centre et qui très souvent aboutit à des transferts culturels vers le centre, une imitation de ces périphéries occidentales au centre même de l'Empire. Alors, dans cette réflexion sur le despotisme, on a un moment très important, c'est la fin des années 50, le début des années 60, avec deux pensées presque complètement déconnectées, même si les deux entendent dénoncer le totalitarisme et le communisme. La première pensée, c'est celle d'Hannah Arendt, que vous connaissez bien, Hannah Arendt, qui écrit au début des années 50 les origines du totalitarisme avec trois volets, dont le deuxième porte sur l'impérialisme occidental des débuts du XXe siècle. Et puis ensuite, le troisième volume porte sur le totalitarisme. Ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt, au moment de la révolution en Hongrie et de la répression de Budapest hein, par les chars soviétiques en 1956, eh bien dans ce cadre-là, Hannah Arendt essaye de développer une pensée de l'impérialisme totalitaire, c'est-à-dire une autre forme qu'elle considère comme plus efficace de l'impérialisme. C'est ce qu'elle défend donc dans cet article paru en 1958. Pour elle, à ce moment-là, l'impérialisme n'est pas une notion réservée aux empires coloniaux occidentaux. Grâce à sa perspective comparatiste, Allemagne, URSS, stalinisme, nazisme, eh bien, grâce à cette pensée comparatiste, elle ouvre sur la possibilité de penser l'impérialisme soviétique dans sa continuité territoriale, à la fois comme une volonté de puissance, une idéologie expansionniste, mais aussi des logiques prédatrices et au fond, une forme d'espace vital, un petit peu à la manière des nazis. Au même moment, on a une autre pensée qui se structure, celle de Karl Wittfogel, qui a déjà commencé à travailler le despotisme oriental dans l'entre-deux-guerres. Il était très marqué par le marxisme au début, mais il devient un anticommuniste très très virulent après la Seconde Guerre mondiale. Et dans son livre, donc « Oriental Despotism », où il s'agit de faire un essai sur le pouvoir total, qui paraît en 1957 et qui est traduit en français avec une préface de Pierre Vidal-Naquet en 1964, eh bien, on a une pensée qui n'est pas du tout en lien avec celle de Hannah Arendt. Hein. Il n'y a aucune discussion entre les deux penseurs. Karl Wittfogel a discuté avec certains penseurs du totalitarisme, comme par exemple Bertram Wolfe, qui était aussi un ancien marxiste. Mais sa perspective est très différente de celle d'Hannah Arendt parce que son point de départ, c'est la Chine. C'est un spécialiste de la Chine. Et donc, sa volonté, c'est de comparer l'URSS à la Chine. Il s'intéresse à la fois à il est dans une perspective de longue durée, il s'intéresse à l'espace, mais il s'intéresse surtout à l'héritage des institutions. Et son argumentation, hein, c'est de considérer qu'il y a des pouvoirs despotiques qui se fondent sur une forme de managérialisme bureaucratique d'un État qui écrase la société et dont les origines seraient dans un rapport différent de celui de l'Occident à la loi et à la propriété, avec une logique de grands travaux, y compris militaires, avec les fortifications. Dans cette pensée de Karl Wittfogel, l'orientalisme est assumé, la différence entre Occident et Orient est essentialisée, même si on sait que le despotisme, au fond, au départ, a bien été plutôt construit pour critiquer Louis XIV, et même si on sait aussi que les grands travaux hydrauliques, qui sont un des fondamentaux de la pensée de Karl Wittfogel, ont été aussi le propre de pays complètement démocratiques comme les Provinces-Unies, malgré tout, il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui dans la pensée de Wittfogel, car il y a cette comparaison Chine-URSS, et évidemment qui reprend de la pertinence aujourd'hui dans le cadre géopolitique actuel, cette Chine, ce bloc Chine-Russie, qui s'oppose à la fois à la démocratie et au libéralisme. De même, dans Karl Wittfogel, on voit bien la frontière qui existe entre la Moscovie, qui appartiendrait à l'Orient, avec l'héritage à la fois byzantin et mongol, et de l'autre, la Rousse de Kiev, ukrainienne, à la frontière de l'Europe, qui serait de l'ordre de la civilisation européenne. Malgré tout, ce qui est frappant dans la théorie de Karl Wittfogel, c'est l'absence de l'impérialisme. C'est un angle mort de son analyse, même s'il parle des fortifications militaires, et même s'il parle de l'espace. Alors, on sait que dans les grandes analyses hein, sur l'orientalisme, on a pu montrer comment le discours orientaliste et donc la grille de lecture des despotismes oriental a pu être un outil depuis le XVIIe, XVIIIe siècle pour justifier finalement de la colonisation et de l'impérialisme occidental, puisque l'impérialisme ne faisait que pérenniser une forme d'oppression qui était déjà naturelle dans le cadre des sociétés orientales. Par ailleurs, la confiscation des terres indigènes était particulièrement justifiée par le fait que, de toute façon, il n'existait pas dans ces despotismes véritablement de propriété privée. Alors, est-ce que c'est cela qui explique l'absence de l'analyse de l'impérialisme dans le propos de Pitvogel? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'analyse despotisme oriental sert très largement le discours russe d'aujourd'hui. Comment? Eh bien, parce que le discours russe d'aujourd'hui se fonde sur l'idée d'une Russie qui ne serait pas un empire comme les autres, qui serait un empire subalterne. Je reprends cette idée notamment d'un certain nombre de travaux actuels, comme le travail de Botagoz Kasimbekova, historienne kazakh actuellement en poste en Suisse, qui considère que la Russie se veut innocente de tout impérialisme, ou bien les travaux d'auteurs comme Morozov et Tlostanova, qui parlent d'empire subalterne pour la Russie. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, de dire que la Russie, au début du XXe siècle, était au fond une semi-colonie de l'impérialisme franco-britannico-allemand, hein, puisque les investissements, les capitaux venaient de l'Occident pour moderniser la Russie. De ce fait, la Russie impériale serait certes un empire, mais n'aurait pas cette dimension impérialiste qu'aurait les États européens. Et bien évidemment, dans cette analyse qui est très économiste de l'impérialisme, on a le moment fondamental de l'écriture du livre de Lénine sur l'impérialisme, dernière étape du capitalisme. Bien évidemment, avec la révolution russe et le développement l'Union soviétique, le discours politique de ce pays du communisme est un discours anti-impérialiste. Donc, même si les bolcheviks reconstruisent l'empire, même si Staline agrandit l'empire, cet empire serait un empire anti-impérialiste qui vise à libérer les peuples et non pas à les asservir. Et on en a des exemples évidemment très fameux dans la propagande soviétique. Et là, je vous montre deux affiches très frappantes. La première, c'est une affiche en direction de l'Asie centrale qui montre à quel point le pouvoir soviétique est un pouvoir libérateur du voile pour les femmes. Et à l'ouest, par contre, ce qu'on voit ici dans cette affiche, qui d'ailleurs sert de couverture à mon livre sur la frontière épaisse, eh bien, c'est une affiche du moment où l'armée rouge entre en Pologne orientale à la suite du pacte germano-soviétique en septembre 1939. Et il s'agit là d'avoir un discours qui montre que l'entrée de l'armée rouge en Pologne n'est pas pour asservir la Pologne, mais c'est une entrée en Pologne pour libérer les peuples ukrainiens, biélorusses, les pauvres paysans ukrainiens et biélorusses qui seraient dominés par les propriétaires polonais. Donc, ce serait une forme de libération à la fois nationale et une libération de classe. Donc, cette argumentation de l'empire subalterne, elle prend tout son essor, hein, sous Poutine, avec la volonté finalement de reprendre à son compte l'idée de despotisme oriental en essentialisant la division Orient-Occident, mais pour dire autre chose que ce que disait Pitvogel, pour dire que le libéralisme n'est pas le futur de l'histoire, et qu'au contraire, ce qui est le futur de l'histoire, c'est une forme d'anti-Occident, d'anti-Occident qui parle au pays du Sud et qui donc fait de la Russie le porte-parole des mondes subalternes, hein, un empire autre. Bien évidemment que ce discours extérieur de la subalternité conduit à un renforcement de l'oppression interne, puisque cela soude l'ensemble du peuple russe derrière son despote, et c'est donc évidemment un problème pour l'évolution des choses en Russie. Voilà, je voudrais terminer sur cet aspect de l'empire subalterne. Merci beaucoup.
Grand merci. Je voudrais une question. Vous avez jadis travaillé sur l'impérialisme, on faisait la distinction entre l'impérialisme ultramarin et l'impérialisme continental. Dans les empires ultramarins, c'est-à-dire ceux de l'ouest de l'Europe, il y a toujours une rupture géographique entre la métropole Et les colonies, ça peut aller à des milliers de kilomètres. C'est des empires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. Et l'empire continental, au contraire, il est dans une continuité, d'où la difficulté de tracer en quelque sorte une distinction entre la métropole et la dépendance. Et à l'époque contemporaine, on avait deux grands empires continentaux, les États-Unis d'Amérique, qui peuvent être considérés au XIXe siècle comme un empire continental et qui s'arrête à Hawaï, en fait. Ensuite, et en même temps, toute l'histoire russe, c'est un empire continental, d'où le jeu de mots permanent des Russes qui disent qu'ils ne sont pas impérialistes, parce que quand nous pensons à impérialisme, nous pensons aux empires ultramarins et non pas aux empires continentaux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors évidemment, c'est une. Bon, et en plus, c'est un autre aspect aussi, c'est que. Les empires comme ceux de la Russie sont des empires multinationaux. Bon, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette présence de multiples nations qui complique aussi les choses par rapport à l'empire colonial classique. Alors, cette différenciation entre les empires continentaux et les empires ultramarins a été présente très longtemps. Aujourd'hui, elle est quand même assez largement remise en cause, puisque, y compris même dans la manière dont on pense qu'aujourd'hui les États-Unis, on considère qu'il y a eu une colonisation du territoire américain, qu'il y a eu non pas un front pionnier face à quelque chose qui était vide, mais il y a bien eu des Indiens que l'on a colonisés. Et donc, et que l'on a très largement exterminé. Donc, il y a une très large remise en cause de cette division des empires en différents types. La seule chose qu'on pourrait considérer, et c'est d'ailleurs à la suite d'Anna Arendt, hein, c'est de considérer que certains empires ne nécessitent pas de despotisme en leur cœur, comme par exemple l'empire colonial français et britannique. Qui n'ont pas débouché sur la transformation du pouvoir de la métropole et on a gardé un système démocratique, alors même que on a d'autres empires qui ne font que dupliquer le despotisme à partir du centre. Donc ça c'est une vision politique des empires, mais l'autre élément qu'il faut depuis le début des années 2000, avec notamment les travaux de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire des empires autour de Gender Bank et Frederick Cooper. Il y a cette idée d'un empire qui gouverne des différences, qui gouverne des grands espaces et dans lequel les méthodes seraient souvent similaires, que l'on soit dans l'empire romain, l'empire américain, l'empire russe ou l'empire colonial français. Donc il y a une sorte de dilution des différences et en même temps il y a aussi la question économique qui reste une vraie question, hein, c'est-à-dire le moteur économique ou non de l'expansion impérialiste. Et bien évidemment que ce moteur économique, c'était aussi un élément qui avait réussi à faire la différence entre les empires coloniaux français et britanniques et l'empire russe, qui apparaissait comme moins mu par la volonté de faire des bénéfices économiques et des profits, et davantage mis par des questions de puissance et de prestige.
Là, on entre dans les grands débats sur l'histoire du colonialisme, de l'impérialisme, sur la question de savoir si la motivation de l'impérialisme est moins l'économique, la puissance, et aussi des ressources. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement un enrichissement, mais la disponibilité en ressources que donne l'Empire peut à certains moments être un facteur de puissance considérable. Dans un autre sujet, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de fascisme en France et en Grande-Bretagne dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'il y a des empires coloniaux. Et donc, ce qu'on appelle à l'époque la France et l'Angleterre sont des pays satisfaits, des puissances satisfaites par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie qui se sentent frustrés. Insatisfait. Et donc, contrairement à la thèse d'Anna Arendt, c'est l'impérialisme qui a empêché le développement du fascisme dans les grandes démocraties. Bon, c'est un autre débat. Bien, cher ami, encore merci de votre intervention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.